Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici un moment capital de la vie de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il se fait appeler le comte de Bouderbala. C'est l'un des humoristes français les plus populaires. Son vrai nom est Sami Amezian. Il sera là tout à l'heure. Il y a une quinzaine d'années, il a vécu une expérience qui a été le grand déclic de sa vie. Il a été basketteur dans la plus grande équipe universitaire aux États-Unis, les Huskies de l'université du Connecticut. Il raconte tout ça dans un livre à compte d'auteur aux éditions Iceprod que vous trouverez sur Amazon. Amazing. J'en ai tiré cette histoire que Simon Veil m'a aidé à écrire. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
J'ai 25 ans et je vis toujours chez mes parents, à Saint-Denis, au nord de Paris, dans la chambre que j'ai longtemps partagée avec mon grand frère. On a gardé les lits superposés. Inutile de vous préciser que je n'ai jamais ramené de fille à la maison. Tu prends le lit du haut ou le lit du bas? À ce stade, j'ai tenté de faire carrière dans le basket, à Poissy, en National 3, la 5e division. Un jour à l'entraînement, je commets l'erreur d'en faire trop dans le rôle de défenseur contre le protégé de l'entraîneur, qui ne m'aime pas. « Tu cherches quoi là, Sami, avec cette attitude agressive, hein ?»« Ben, je défends, coach. Je le fais bosser, je bosse en même temps, c'est bon pour l'équipe, non ?»« Tu veux le blesser, hein ? C'est ça que tu veux ?» C'est le joueur majeur de notre équipe. Allez, dégage. Je veux plus te voir. Je rentre à la maison, abasourdi. Et ma mère? Eh, de toute façon, il est temps que tu trouves un travail sérieux, hein. C'est pas le ballon qui va te faire manger, hein. Et mes frères et sœurs qui acquiescent. Et j'ai beau dire. Le basket, c'est comme le boulot, hein. Les autres joueurs, c'est comme les collègues. Et l'entraîneur, c'est un peu le patron. Et je gagne un peu d'argent. Ah ouais? C'est ça, combien? 850 euros? C'est la loose, Sami. La loose. Va bosser. Tu verras que le basket est un vrai boulot, bah ça n'a rien à voir. Alors je me mets à chercher un job. Je vais à la mission locale. Ah! Vous avez une maîtrise de langues étrangères appliquées au commerce. Vous ferez pas grand-chose avec ça, hein. Il aurait fallu une école de commerce, quoi. Ah bon? Alors pourquoi on nous encourage à faire des études qui servent à rien? Ah, mais je bosse pas à l'éducation nationale, moi, hein, monsieur Amezian. Finalement, je finis par décrocher quelques heures comme prof remplaçant en anglais et en italien dans les collèges et les lycées de banlieue. Et à côté, je poursuis ma formation de langues étrangères appliquées à l'université de Saint-Denis, dans des amphis bondés, avec des profs déprimants. Je vous préviens, ça va être compliqué. Au lieu de nous filer la culture de la gagne, ils nous découragent d'entrer. Jusqu'à ce qu'on ait envie de laisser tomber, parce que c'est foutu d'avance. Une salle d'attente pour chômeurs. Un soir, en sortant du cours d'économie, je tombe sur une affiche. Partez étudier aux États-Unis avec le programme MICEFA. Réunion d'information le 16 février à 21h en salle B212. J'y vais. Et tout bascule. On me met dans les mains d'une certaine Nancy Merritt. Moi, je rêve de San Francisco, de Los Angeles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Amezian? Ben, je joue au basket, c'est ma passion. Très bien. Alors, UConn, ça sera parfait pour vous. C'est une excellente business school. Et ils ont une très belle équipe de basket. Vous pourrez aller voir les matchs. C'est où? UConn? The University of Connecticut. C'est environ une heure de New York. Ah, mais c'est l'équipe qui a gagné le championnat cette année? Je ne m'emballe pas. Il me faut l'avis favorable de mes profs. Un avis favorable pour partir aux États-Unis? Et puis quoi encore? Ils prennent les meilleurs éléments, hein. Vu vos notes... Pour les mettre dans ma poche, j'ai dû feinter. J'ai un ami qui travaille au consortium du Stade de France. Alors ben, j'invite les profs. L'un à un match de rugby, l'autre à un concert des Rolling Stones, et encore un autre à une finale de la Coupe de France de foot. Je donne même ma collection de vieux billets de banque à un prof qui les collectionne aussi. Et comme ça, je récolte des avis favorables. Et un matin, un bus me largue sur le campus de Stores, dans le Connecticut. Décor de série américaine. Une ville dans la ville, avec sa propre police. On me remet les clés de ma chambre, un lit, un bureau, une chaise, les sanitaires au fond du couloir et à l'entresol un endroit pour cuisiner. Et je fais connaissance de mon voisin, un Chinois, Chung. Pour gagner un peu d'argent, j'ai décroché un job d'assistant de français. Bon. Alors je vais vous donner un conseil très important. Ici, Samy, vous êtes aux États-Unis. Hein? Au niveau des mœurs, ça n'a rien à voir avec la France. Donc, vous fermez jamais le porte quand vous êtes seul avec un étudiant. Ok? Vous acceptez jamais de rencontres extrascolaires. Jamais. On a déjà vu des étudiants accuser des professeurs de harcèlement. Si, si. Quand j'ai le temps, je vais au gym, le complexe sportif de haut standing de l'université. Et je vais sur les terrains de basket. Le parquet est tellement lustré qu'on peut se voir dedans. Rien à voir avec le béton armé qui nous massacrait les genoux à Saint-Denis. Où est-ce que tu as appris à jouer comme ça? En France? Ah bon? Vous jouez au basket, overseas? Ils nous prennent pour des bouseux. Mais il me propose quand même de rejoindre l'équipe pour un tournoi amateur. Et je deviens le French, qui sait tirer et défendre comme l'un des leurs. Un soir, Chung, mon voisin, toqua la porte.
« Hey Samy, tu fais quoi ce soir? J'ai une place en plus pour la soirée de présentation de l'équipe de basket, là, de l'université. C'est juste en face, à Gamepro. Ça te dit ?»
Si ça me dit, la salle est pleine à craquer, une ambiance de folie. J'ai vu les Yukon Huskies, champions universitaires NCAA, en vrai, et pas devant la télé en direct du 9-3. J'ai pris une résolution à laquelle il faut que je me tienne. Côtoyer le moins possible les étudiants français, pour profiter au mieux de cette année et progresser en anglais. Je fais d'abord la connaissance de Jennifer, Selma, Alix et Dora. Et ensuite, par leur intermédiaire, des garçons. Julien de Paris Dauphine, Jonathan d'Assas. Mais avec eux, la relation devient vite exécrable. Ils se moquent de mon accent de banlieue, de ma fac Paris 8. Ils me caricaturent. Et moi, je ne peux que ravaler ma rage. Un jour, je leur demande...
Les gars, vous connaissez un salon de coiffure où je pourrais me faire couper les cheveux? Ah ben oui, il y en a un derrière le TED, là. Le pub du campus. À côté du Starbucks. Je te conseille la coiffeuse, elle kiffe les mecs de Saint-Denis. Et elle est super bonne en plus.
Je vais donc au Scora's Barber, où la coiffeuse m'accueille à l'américaine.
Hey! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Je termine avec Harry. Hey, je suis à toi dans 5 minutes, René.
Mais pourquoi les Américains s'adressent-ils toujours à vous comme s'ils vous connaissaient depuis 20 ans? Elle vient vers moi et elle me tend un peignoir.
À nous deux. Moi, c'est Holly.
Bonjour, Holly.
Moi, c'est Samy.
Samy! Et tu viens d'où avec ce accent?
De France.
France! Oh!
Paris, so romantic.
On voit qu'elle ne connaît pas la colline du crack à la porte de la chapelle. Et on en vient à parler de sport.
Je jouais au basket en France.
Au basket?
Oh. Tu sais qu'on a la meilleure équipe universitaire des États-Unis ici? Les Huskies.
Tu jouais à quel niveau en France?
Professionnel.
Pourquoi tu n'irais pas jouer avec eux?
Dans l'équipe des Huskies?
Ben, j'ai pas de connexion.
Ok, bouge pas.
Hi,
Ted.
C'est Holly, du salon de coiffeur. Dis-moi, j'ai ici un super basketteur français. Il a joué en professionnel. Vous devriez le rencontrer, Ted.
Elle raccroche.
Ok, Sammy. Tu as rendez-vous avec Ted Tigan. Dans 20 minutes. C'est le responsable des étudiants athlètes.
Elle m'a décroché un rendez-vous avec une personne influente de l'équipe des Huskies. C'est dingue. En France, si j'avais dit « j'ai pas de connexion », on aurait haussé les épaules, avec, dans le meilleur cas, désolé. Ici, c'est tout différent. Une sensation de tout est possible. J'ai changé. Ce pays m'a donné une nouvelle force. Cette fille s'appelle Holly. Ça veut dire sainte. C'est peut-être Dieu qui me l'a envoyée. Donc, Dieu serait généreux aux États-Unis et m'aurait laissé en galère en France. Dieu serait anti-français. Je vous laisse. J'ai rendez-vous. J'arrive au Gamble Pavilion, un terrain de basket plus grand que l'Accor Arena de Paris. Je passe un mur tapissé de photos des plus grands joueurs de NBA passés par ici.
Come in.
Bonjour. Je suis le basketteur français. Il me toise, incrédule. Il regarde mes genoux, il remonte lentement jusqu'à mon visage. Il devait s'attendre à un colosse de 2m10 et il découvre un petit maçon portugais d'1m3.
Ok. Donc toi, tu joues au basket. T'as joué où?
En France et en Algérie.
Tu connais l'équipe des Huskies? Tu les as vus jouer à la télé?
Oui.
Et qu'est-ce que tu veux alors?
Mais je sais pas, je pensais que je pourrais faire un entraînement avec eux.
Ha! Ils se foutent de moi, le Frenchie. Bon. Ok. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller voir s'entraîner. Et puis tu reviens me voir, hein? Tu sois gentil.
Je vais directement au bureau du basket pour tenter de parler à un coach ou à un assistant. Et là, je croise un homme d'une soixantaine d'années, physique à la John Wayne.
Hey, c'est toi le basketteur français?
Ouais.
Tu as déjà joué avec Tony Parker?
Avec non. Mais j'ai joué contre lui quand il était à l'INSEP.
INSEP? Ok, viens dans mon bureau.
Et là, je réalise, c'est Jimmy Calhoun. C'est le coach des Huskies. Je l'ai vu à la télé. Mes yeux brillent comme ceux d'un enfant.
Assieds-toi. Bien. Notre meneur de jeu, A.G. Price, est blessé. Il ne reviendra pas toute la saison. Et donc, on lui cherche un remplaçant pour cette année. On va te mettre à l'essai, hein? Une semaine. Bah, si c'est bon, tu restes. Bah, si c'est pas bon, bye-bye, quoi.
Mais comment vous savez que... Je suis le basketteur français.
Ah, mais je sors du salon de coiffure. C'est Holly qui m'a parlé de toi. Allez, good luck, Henry.
Dès le début, il se met à m'appeler Henry. Parce que pour lui, c'est un prénom typiquement français. Et il me met dans les mains de Patrick Sellers, qui met tout de suite les choses au clair.
Hey, man.
Tu vas passer une année de folie, ici, hein? Si t'es pris dans l'équipe, ça va être fou. Le basket, ici, c'est un truc de fou. Par contre, il y a une hiérarchie, hein? Personne ne va voir le coach Kaloudin comme ça, directement, hein? Jamais. Je suis là pour ça. Entraînement ici à Campbell, tous les jours, de 14h à 17h. Ensuite, muscu, une demi-heure à une heure. Toute l'équipe petit-déjeune, déjeune et dîne ensemble, hein, au self que nous avons ici. On est une équipe, mais on est surtout une famille, ok?
Le soir, dans mon lit, je me repasse en boucle cette journée de dingue. J'ai la chance de ma vie, en somme. Je me demande si Dieu ne préfère pas les expatriés aux impatriés. Le lendemain, j'arrive au Gamble Pavilion, le cœur battant la chamade.
Hey, tu es Sammy?
Oui.
Ok, salut. Je suis Ben. Je suis le manager de l'équipe. Suis-moi.
Il m'emmène devant la porte du vestiaire. Surtout ne pas me laisser impressionner. Je prends une grande respiration et j'entre dans le sanctuaire.
Hello?
Il ne prête aucune attention à moi. Aucune. Et j'ai du mal à ne pas jouer les groupies. Parce qu'ici, c'est Ed Nelson. Là, c'est Josh Boone. Et là-bas, c'est Charlie Villanueva. Je suis déjà en tenue. Je n'ai rien à faire dans ce vestiaire. Alors je m'assois à même le sol et je commence à faire des exercices d'échauffement. Décontracter mes épaules, relâcher ma nuque. Et là, les regards se posent sur moi.
Hey, c'est qui, là? Ce Mexicain clandé, là. Regardez comme il est habillé. C'est qui, ce motherfucker? Hey, mec! Il y a un playground dehors pour les amateurs.
Moi, en vérité, je ne comprends rien de ce qu'ils disent, c'est de l'argot. Mais ils ont l'air de me tailler un beau costard. Et en même temps, c'est un type qu'ils n'ont jamais vu, qui est sapé comme un joueur des années 80, qui est tout petit, et qui est assis par terre au milieu de leur vestiaire. Normal.
Bon, les gars, c'est l'heure, on y va. Oh, c'est comme ça que vous vous habillez en France pour jouer au basket? Bon, on s'occupera de tout ça plus tard.
Quand j'arrive sur le terrain, je suis pris d'un vertige. C'est gigantesque. Les gradins peuvent accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Pour n'importe quel basketteur, c'est un Eldorado. C'est le rêve. Et là, le coach entre sur le terrain. Un silence de mort s'installe et ils se mettent à applaudir.
Vous applaudissez l'entraîneur ici?
Hey mec, on accueille l'un des plus grands coachs de l'histoire du basketball. Hein. Et en plus, il revient d'un cancer. Applaudis mec, applaudis. Ok les gars. Bon, c'est pas parce qu'on a été champion l'année dernière que la victoire est acquise pour cette année, hein? Vous connaissez la clé? Travaillez! Et ça commence maintenant, aujourd'hui. L'entraînement va durer 4 heures, peut-être 5. Jason, tu prends en main l'échauffement?
Les joueurs se mettent à courir autour du terrain. Et après, ils enchaînent avec des mouvements d'échauffement collectif. Et moi, j'ai toujours un temps de retard, le temps de comprendre. Un peu largué par cette langue américaine que je peine à saisir. Je rentre complètement dans l'entraînement quand on aborde le 3 contre 3. Je parviens même à marquer mon premier panier.
Very good attitude. Keep on like this. Good boy, yes. Oh guys, no lancer franc. 2 essais chacun.
Et je l'ai réussi. Et après, Kaloudin organise un test dit de suicide qui consiste à courir en aller-retour d'un bout à l'autre du terrain en touchant toutes les lignes.
Ok, si vous voulez devenir de vrais joueurs, il va falloir mettre plus de cœur à l'ouvrage, hein? Parce que le gagnant du test de suicide, il
vient de France. Ça devrait vous poser des questions, non ?
Je suis le dernier à rejoindre le vestiaire.
Sammy, le coach veut te voir dans le bureau.
J'entre dans le bureau de Calhoun, encore plus intimidé que la première fois.
Alors, Henry ? Assieds-toi. Bon, c'est bon, Henry. Tu es dans l'équipe.
Et il me remet un maillot des Huskies, numéro 10, sans nom au dos.
Tu es rapide, balle en main. Tu dribbles bien, tu sais tirer, tu as une bonne défense. Je pense que tu seras un good asset pour nous cette année.
Et après, le manager me briefe.
Attends-toi à passer une année intense, mec. Tu vas kiffer. Alors, pour chaque match, t'as droit à 4 places VIP. Pour les déplacements lointains, on prend jet privé. Pour chaque match extérieur, hôtel 5 stars, 5 étoiles, Marriott. Et quand tu as un examen, hein, ou un devoir à rendre le fac, on peut te prendre un prof particulier. Hein? Ok?
Et 10 jours plus tard, au vestiaire, j'ai mon casier, avec ma photo et mon nom, Sammy Amezian, Saint-Denis, France. Avec dedans mon maillot numéro 10, un short Yukon, des baskets neuves, qu'on changera tous les jours, et des chaussettes blanches et même un caleçon propre. À partir de là, mon quotidien universitaire tourne essentiellement autour du basket. Mon planning de cours a été adapté. Tous mes après-midi et toutes mes soirées sont consacrées au basket. Même si, et ça le capitaine Jason Besh me l'explique très vite, je ne suis pas vraiment dans l'équipe.
Sammy, j'ai 2 ou 3 choses à t'expliquer. Dans cette équipe-là, t'es pas titulaire, ok? Tu es welcome. Tu vas faire partie de la Yellow Team, l'équipe jaune. C'est-à-dire l'équipe du remplaçant des remplaçants. Ça veut dire que tu joueras pas cette année. À aucun moment. Never, man. Never. Ah bon? Non. T'es comme moi, t'es un faire-valoir. Ok? Ton rôle, c'est d'aider les autres joueurs à progresser. Ok? Tu seras un meneur de banc. Un meneur de banc? Ok, Jason. No problem.
Arrive le premier match de préparation contre la Bryant University à Hartford. Je pénètre dans le stade en petite foulée.
Waouh !
Une fois et demie, l'Accor Arena de Paris. J'en ai mal à l'estomac. Et là, dans les gradins, je vois Holly, la coiffeuse. Elle porte un maillot numéro 10 et brandit une pancarte avec écrit « Sammy Amazing ». Ça me touche, hein, mais ça me ridiculise. Sur le terrain, c'est vite un festival d'action. Notre équipe mène de 30 points. Bryant est en train de prendre une raclée. Et 2 minutes avant la fin du match, je vois Calhoun qui se penche vers son assistant, qui me regarde.
Sammy, sur le terrain, tu remplaces AK.
Je n'en crois pas mes oreilles. Il me donne la chance de jouer. Je cours vers le point de remplacement.
Changement pour Yukon. AK qui a fait un très bon match est remplacé par un Walcon qui vient de Saint-Denis, France. Sammy Amazing.
À peine arrivé sur le terrain, je récupère le ballon pour une remise en jeu. À un moment, je suis seul dans un coin. Je prends un tir à 3 points. Bingo! La salle se lève d'un coup. Je sens des frissons qui me montent jusqu'aux oreilles. Mes coéquipiers se lèvent comme un seul homme. Et dans la tribune, Holly saute de joie. Je viens de susciter d'un coup une hystérie collective. J'ai le regard de 30 000 spectateurs braqués sur moi. La chair de poule. Et après, j'enchaîne avec 2 points de plus. En 30 secondes, je viens de marquer 5 points à moi tout seul. Le commentateur est interloqué.
Mais que se passe-t-il avec ce walk-on de Yukon? C'est fou! Il est juste incroyable! Il n'a même pas de nom sur son maillot. J'apprends qu'il est français. Il s'appelle Sammy Amazonai, non, Amazine, Amaziani. J'arrive pas à prononcer son nom. He's just amazing. Ok, on l'appellera Sammy Amazing, dorénavant.
Le soir, une fois seul dans ma chambre, je m'endors des étoiles plein les yeux. Je pense à ma famille, à mes amis. Ils ne me croiront jamais. Je vis mon rêve français en Amérique. Hein. L'aventure du Yukon a joué un rôle primordial dans ma vie. Elle m'a appris à vaincre ma timidité et à croire en mes rêves, à travailler sans relâche pour parvenir au but. Ça a été un déclencheur. Voilà, Samy.
Ouh.
Ouh. J'ai décidé d'arrêter mon histoire là. En vérité, elle continue le reste de l'année scolaire. À un moment donné, vous devenez non pas remplaçant des remplaçants, mais remplaçant. C'est-à-dire, vous franchissez un cap.
C'est ça.
Et vous jouez à plusieurs reprises.
Ouais, je joue une dizaine de matchs. Une dizaine de matchs, et surtout, Kaloun me fait rentrer pendant la March Madness, le tournoi NCAA, le tournoi final. Si on gagne ce tournoi, on est champion NCAA. Enfin, eux sont déjà champions en titre.
Mmh. Et moi, ils gardent leur titre. Et pour vous, c'est le premier.
Nous, on gagne le titre de la conférence à l'époque, la Big East. Mais nous, malheureusement, après,
on le découvre dans le
livre. Oui, on rate le coche.
Mais c'est pas de votre faute.
C'est un peu de ma faute, mais sans l'être. C'est-à-dire que le basket, c'est un sport de détail. C'est-à-dire qu'un détail à la 15e minute va se répercuter sur la fin de match. À la fin du match, on pense que c'est en accordant sa fin de match qu'on va gagner le match. C'est 40 minutes à fond, quoi. C'est une quarantaine de minutes à fond. C'est vraiment un sport très précis d'adresse, de puissance, de résistance. C'est très complémentaire.
Alors après, vous rentrez à Saint-Denis.
Là, je suppose qu'il
y a un petit coup de blues quand même.
Là, c'est pire qu'un coup de blues, c'est
une déprime.
C'est une dépression, c'est une déprime. Parce que moi, j'ai longtemps habité la rue qu'on appelait la rue de la mort. Rue des Postillons à Saint-Denis, face à l'hôpital de La Fontaine, avec fenêtre de chambre qui donne sur la morgue. 60 mètres plus loin, foyer de personnes âgées. 10 mètres plus loin, hôpital psychiatrique, en face d'un distributeur de seringues pour toxico. Et moi, j'habitais au-dessus des pompes funèbres, au numéro 13.
Ah ouais, d'accord.
Donc là, en plus, c'est pas un sketch.
Augure, quoi.
Non, c'est la vérité. Donc, ouais. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là.
Et donc, vous y retournez. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous rapportez un peu beaucoup de cette énergie en France?
Ouais, forcément. Moi, je rentre en France, j'ai envie de manger la France. J'ai envie de tout défoncer, de tout arracher, de réussir. Mais c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'un an d'États-Unis et un an de cultures différentes, confrontées à la culture française, mais il y a un vrai choc des cultures. Parce que moi, pendant un an, je deviens américain, entre guillemets. C'est-à-dire que je me dis, tout est possible. Et j'arrive dans un pays où j'ai pris du recul sur le pays et j'ai compris pourquoi j'étais parti. J'étais parti parce que j'avais mes barrières mentales, mais parce qu'il y avait aussi des barrières en face.
Ah, vous reconnaissez qu'il y a les deux.
Ah, mais bien sûr, mais c'est l'objet du livre.
Vous-même, vous étiez... Oui.
Mais quand j'entends comment on résume le livre, c'est pas un livre pro-américain, les États-Unis c'est génial, c'est pas ça du tout. C'est un livre où il n'y a pas de système idéal. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu des États-Unis et un petit peu de France pour faire un pays magnifique. Et c'est vrai qu'en prenant le bon qu'il y a là-bas et le bon qu'il y a ici, on peut arriver à faire une bonne chouk-chouka, une bonne mayonnaise, mais c'est pas évident à faire. Et c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Moi, j'ai réussi à le faire parce que, enfin, je pense avoir réussi à le faire parce que je fais un métier très spécifique. Après, moi, j'ai arrêté le basket, je suis passé au one-man show.
Il y a eu le doute là-dessus, parce que donc vous rentrez quand même avec une expérience dans l'élite américaine. Là, vous pouvez taper au-dessus en rentrant en France avec ce passeport, au-dessus de la nationale 3 française.
Ah, mais moi, après, j'ai plein d'opportunités. Hein, parce qu'en France, j'ai fait toutes les divisions sauf la première, la meilleure. J'ai fait la Pro B, la N1, la N2, la N3, mais j'ai fait ça en dégringolade. C'est-à-dire, j'ai commencé à 20 ans en Pro B, à 21 ans en N1, à 22 ans en N2, à 23 ans en N3. D'accord. J'allais finir en 8e division à 28 ans.
On vous propose quoi de partir au Bahreïn ?
Il y a le Bahreïn qui me propose un bon contrat, 8 000 $ par mois, là, à Manama, à l'époque, avec 2 ans après une nationalité, enfin un passeport bahreïni.
Et pourquoi vous dites non ?
Bah, moi, au départ, je me dis, ouais, pourquoi pas, mais je commence à faire la scène. Et en fait, je rencontre cette possibilité d'exprimer sur scène ce dont j'ai rêvé depuis gamin, la drôlerie et l'histoire. Moi, je voulais juste raconter cette histoire en blague, parce que si j'étais arrivé, j'aurais fait des conférences sinon. Si j'étais arrivé en parlant avec un discours politique, ça aurait été complètement différent, peut-être rébarbatif, mais au final, ça ne me correspondait pas du tout.
Vous auriez pu rentrer au MEDEF.
Non, mais j'aurais pu faire des TEDx ou des trucs sympas. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai été la première personne qu'ils ont contacté en 2008 pour faire des TEDx. Mais je ne l'ai jamais fait parce que j'ai eu le message 7 ans plus tard. Je ne savais pas que sur Facebook, il y avait des messages.
Enfin bref, un bourrico.
Désolé,
les TEDx. On va passer la pub. Les TEDx sont des conférences où des gens font dire quelque chose, déclamer quelque chose devant du public.
Raconter une expérience. Mais moi, je voulais aller sur scène, mais pour faire rire. Parce que les différences France-États-Unis, vous savez que la France et les États-Unis, c'est la vieille opposition historique.
On va reparler de tout ça. Alors, ce qui est passionnant dans votre histoire, au fond, c'est que ça n'est pas en France que vous avez trouvé le déclic. Et je trouve que c'est plein d'enseignements. Alors la question, c'est est-ce que c'est plein d'enseignements parce que vous êtes un enfant de migrant, ou est-ce que c'est plein d'enseignements parce qu'au fond, dans la vie, il faut toujours se mettre un coup de pied au cul pour partir de chez soi ?
Ben, y a les deux, je pense. Il y a les deux parce que moi, j'avais aussi cette problématique-là, cette crise identitaire qui fait que quand on est enfant d'immigré, et bon, moi, en l'occurrence, enfant d'immigré algérien, donc avec un gros fardeau entre la France et l'Algérie, c'est une histoire difficile, douloureuse. Et moi, de surcroît, mon grand-père mort pendant la guerre d'Algérie, côté FLN, tué par les soldats français, avec un père qui vit en France, travailler avec ma mère algérienne, qui ne nous raconte pas cette histoire. Donc moi, je la découvre sur le tard, mais je vois un petit peu comment il peut y avoir une certaine forme de discrimination, même si j'ai pas, entre guillemets, la tête de l'emploi, voilà, blanc, yeux clairs, ça passe, mais je découvre.
Donc
découvre
c'est plus
tout
compliqué
ça.
Pour vous, mais c'est toujours compliqué de quitter papa-maman. Ça se double de
ah
ça.
Ah oui, bien sûr.
25 balais, vous êtes dans la piole avec les lits superposés.
Ah non, mais moi je suis puni, j'ai 25 ans, c'est lit superposé à Saint-Denis, études à Saint-Denis, et puis je me dis, et après au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a un déterminisme social pour moi qui pointe le bout de son nez avec un plafond de verre. Je me dis, il y a un moment, faut que je tente le coup, faut que j'aille faire quelque chose, faut que j'essaie de casser ce putain de plafond de verre qui est au-dessus de moi. Et je fais quoi ? Je me dis, il faut que je parte aux États-Unis. Donc moi, j'ai des déclics.
Mais c'est quand même dingue.
Mais je pars aux États-Unis en me mettant dans la peau d'un mec qui ne va pas revenir. C'est-à-dire que je refais le parcours de mes parents, mais dans un autre pays.
Pardon, mais ce qui est dingue, c'est que vous arriviez à cette conclusion, alors que normalement, il devrait être possible d'attraper ce déclic aussi en France. Vous auriez pu vous dire, je m'en vais à Marseille, ou je m'en vais à Bordeaux, ou je m'en vais à Lyon, je construis une nouvelle vie.
Mais non, c'est encore pire, on va pas se mentir. Il y a encore moins d'opportunités. Ouais. On sait comment ça se passe aussi dans certaines villes de, entre guillemets, de province. Ça n'a rien à voir et c'est encore pire. Nous, on a la chance en région parisienne aussi qu'il y a un melting pot.
Oui.
Vous allez en province, je suis désolé, je reviens d'Avignon, t'as le quartier Montclar, c'est que des cousins, le centre-ville, ils ont même laissé les murailles. Enfin, je caricature un peu, mais moi j'ai beaucoup de recul sur ce qui se passe. J'ai la chance de voyager depuis que j'ai 15 ans. Donc je suis parti aux États-Unis, j'avais 15 ans, je vois là-bas les rapports sociaux, le communautarisme là-bas, qui n'est pas du tout le même communautarisme qu'en France. On fait toujours des comparatifs, ça n'a rien à voir. Et donc, moi, je me rends compte de tout ça, je me dis à un moment, je vois tous mes potes basketteurs partir et cartonner, et moi, je vois les trains passer. Je me dis, mais merde, je vais pas rester comme ça, et finir voilà, je finissais à 1000 balles. Et j'étais en galère. Et je voyais mes rêves s'envoler.
Au passage, cette université de langue étrangère appliquée, enfin, c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire, si vous vous étiez rencardé avant, LEA, ça fait des décennies que tout le monde sait que ça ne débouche sur rien.
C'est un traquenard, les amis. Sauf que, moi, dans ma tête, faut savoir que moi, je suis seul, je n'ai pas de conseiller.
Et c'est déjà que vous soyez en licence de LEA, en maîtrise de LEA.
Non, c'est génial,
de là où
déjà.
Vous venez.
Ouais. Oui, c'est génial. Voilà. Mais après, c'est en sortant de France que j'ai vu que c'était aussi des diplômes, mine de rien. On est un pays d'handicapés linguistiques. C'est-à-dire que 10%, 15% de la population française parle anglais. C'est très grave.
Ouais.
Donc, moi, avec mes langues, mine de rien, quand je pars à l'étranger, c'est génial. Mais moi, ils me prennent pour un extraterrestre. Ils disent, mais c'est super, tu parles plusieurs langues, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Donc, il faut passer une frontière. Et il n'y a même pas besoin d'aller aux États-Unis. Vous allez en Angleterre, vous allez en Suisse, vous allez à droite ou à gauche. Et la mentalité change. Donc, moi, je pars. Mais avant de partir, c'est pas le petit fils de bourgeois qui part aux États-Unis se faire une année. Moi, j'ai cravaché avant de partir. Il fallait réunir la somme de 10 000 euros avant de partir.
Ouais, ça, j'en ai pas parlé. Ouais.
Donc, moi, il y a une extraordinaire solidarité familiale qui se crée autour de moi.
Votre mère veut vous donner ses économies.
Ma mère, elle a été.
Femme de ménage.
Mais femme de ménage à la DAS de Stein, au Clos Saint-Lazare, pendant des années. Elle gagnait 300 francs. Je vais pas lui gratter son PEL à 300 balles. Moi, déjà, quand elle me propose ça. Moi, je suis effondré. Je peux pas accepter. Et puis surtout, après, je sais pas si c'est chez nous entre guillemets, mais normalement, c'est toi qui dois sortir les parents de la misère. C'est pas toi. C'est pas dois pas gratter tes parents pour en sortir.
Ouais.
Donc, il y a toute une solidarité familiale qui se crée autour de moi.
On trouve des jobs.
Bah, on m'aide. On me fait une petite cagnotte. Les sœurs, le frangin. Puis moi, je vais bosser comme un sagouin. Je bosse à l'épicerie du Frangin à Argenteuil, au mini-market. On dit bonjour aux gars qui s'en souviennent. Avec tous les dingos de banlieue parisienne, parce que c'était ouvert jusqu'à 2h du matin et on vendait des cigarettes et des bouteilles sympathiques. Donc moi, j'ai vu tous les dingos. Mais c'était travailler là-bas. Mais ça m'aidait à gagner à ces 10 000 euros qu'il fallait. Donc j'ai fait tous les jobs possibles et imaginables.
Et vous pratiquez la corruption des professeurs. Ça,
alors là j'avoue que là j'ai soudoyé certains profs. Mais pourquoi ? En fait, c'était pas soudoyer certains profs. C'était con. Mais c'était juste avoir des appréciations sympathiques.
Ouais.
Parce que les notes suivaient. Mais on avait à l'époque un prof, bon, paix à son âme, qui est décédé maintenant, qui était directeur du FR à l'université de Paris 8, que les gens doivent connaître. Mais il nous terrifiait. Il était très méchant avec les étudiants. Et il était aussi très réaliste. Il leur disait, écoutez, ça va être la merde. Réveillez-vous, vous êtes ici, on n'est pas à l'ENA. Et c'est paradoxal, parce qu'à Saint-Denis, on a l'ENA, mais avec deux N. C'est une école de formation d'apprentissage. Mais il était hyper cruel avec nous. Et ça avait du bon. Mais quand t'arrives, t'es étudiant, t'as envie de faire quelque chose de ta vie, t'as pas envie qu'un prof... te disent t'es de la merde et t'es mauvais.
C'est lui qui prend la collection de billets ou c'est lui qui prend les places de rugby?
Non, lui il a jamais rien pris. Un méchant et incorruptible. Mais les autres, mais d'ailleurs ce sont devenus des amis.
Je veux qu'on revienne sur cette phrase qui est magnifique. Je me demande si Dieu ne préfère pas les expatriés aux impatriés. Alors c'est rigolo parce que sans doute vous là-dedans vous voyez des choses liées à vos origines migrantes. Et moi j'y vois quelque chose du domaine de il faut toujours partir. Il faut jamais rester là où on a grandi parce que sinon on s'en croûte. Et je pense que c'est plus universel que vous ne le pensez vous.
Bah moi en fait cette histoire on peut c'est un mec de Saint-Denis qui est un petit peu le Bronx français,
ouais.
Qui se retrouve dans la meilleure université des États-Unis de basket. Mais ça aurait pu être un mec d'une banlieue d'une ville de l'Ouganda, du Paraguay, d'Italie, de je ne sais où. C'est une histoire universelle. Pourquoi ? Parce que c'est juste un mec qui essaie de réaliser un rêve. Moi, mon rêve, c'était à 11 ans, quand j'ai commencé à jouer au basket, sur les terrains à Saint-Denis avec mes amis, c'était de jouer en NCAA. C'était pour nous la meilleure ligue de basket du monde, les meilleurs jeunes du monde. Donc nous, c'était ce rêve-là. Mais quand on en parlait entre nous, on se disait « Ouais, moi, un jour, je jouerai là. Mais arrête, tu joueras à Sarcelles, tu joueras à Saint-Denis. » Donc il y avait ces empêcheurs de rêver en rond qu'on combattait, mine de rien, parce qu'on voulait toujours se prouver les choses. C'est aussi de la compétition, c'est ça, le sport.
Oui, mais entre vous.
Entre nous. Mais après, quand on passe les étapes et qu'on va voir les autres, c'est aussi avec eux.
Ah bah
quand
alors.
On allait voir les coachs, nous, quand on disait, ouais, bah, je vais aller jouer au PSG Racing, mais jamais de la vie, tu pourras pas. Moi, j'y suis allé. Au départ, on me dit non. Je suis revenu le jeudi d'après. J'ai dit, je veux refaire un essai. Ils m'ont pris sur le deuxième essai. Et c'est comme ça que ça se passe. Et la vie, c'est comme ça. Moi, mon premier contrat pro, c'était avec Savo Vucevic à Bondy, qui est maintenant entraîneur de la JL Bourg en JP Elite, en première division. Tous les jours, je venais m'entraîner avant l'équipe pro sur le côté et je me disais un jour, il y a un mec, il va se blesser ou il aura un cancer foudroyant et je vais avoir ma chance. À la fin de l'année, c'est lui qui me fait signer mon premier contrat pro tellement j'ai pas lâché l'affaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça la vie en fait. Ouais. Mais c'est pas tout le temps possible quand on est dans un système pyramidal, dans une société où on a un petit chef au-dessus qui vous empêche d'y arriver. C'est ça le souci. Et ça, on peut y arriver, mine de rien, par le sport, beaucoup plus facilement. On peut y arriver encore plus par le one-man show ou par le spectacle, parce que c'est les gens qui vous choisissent. C'est ça qui est génial.
Et moi, j'aime beaucoup le passage où vous êtes donc aux États-Unis et les premières Françaises que vous rencontrez vous font rencontrer deux jeunes Français qu'on pourrait appeler des Charles-Édouard, qui en fait, non mais sont des gamins favorisés qui vont te faire des études aux États-Unis parce qu'ils ont les moyens de se les payer, ce qui est pas
on
votre cas.
On peut le dire, des jeunes connards de droite, mais j'ai rien contre eux. Non, mais après, mais en fait, c'est partir aux États-Unis et se retrouver dans ce microcosme-là, ça exacerbe les rapports sociaux qu'il y a en France. C'est-à-dire que moi, je me retrouve avec Jonathan, avec Julien et David, on est autour de la table et en fait, lui, il vient d'Assas, l'autre de Dauphine, l'autre de Montréal et moi, un connard de Saint-Denis. Les mecs se disent, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et ils se foutent de ma gueule. Ils disent, regardez comment il parle.
Mais en même temps, ça vous donne la rage.
Bien sûr.
Quelque part, ça participe au petit moteur qui fait que vous allez intégrer cette équipe. Comme pour leur montrer, regardez les gars, vous êtes foutus de moi.
Bah oui, mais c'est justement l'ironie du sort. C'est que moi, c'est ce Julien-là qui se fout de ma gueule et qui me pousse dans mes retranchements limite à aller le taper dans cette cantine, ce que je ne fais pas. Et c'est lui qui me donne le tuyau en se foutant de ma gueule de la coiffeuse. Donc c'est lui, mine de rien, qui veut mon mal, mais veut mon bien. Donc en fait, c'est mon ami ennemi. C'est ce qui est génial. Et en fait, je pense qu'il faut prendre les choses comme ça. Il faut le prendre comme un challenge.
Ouais.
Moi, j'ai un ami, voilà, il conseille un gars. Il lui dit, bon ben voilà, t'as plus d'oseille. Ta société, c'est la banqueroute. Tu me dis que ta femme te quitte. Et puis là, t'as les huissiers aux fesses. Et le gars lui dit, moi je suis dans la merde. C'est terminé pour moi. Il me dit non, c'est un beau challenge. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça en fait.
Une dernière précision, Oli. Drôle de personnage.
Exceptionnel.
Alors, je l'avais imaginé en lisant le livre. Et puis après, j'ai vu les photos. Alors, ça colle pas du tout. Moi, j'avais imaginé une blonde américaine un peu machin. Et en fait, non, elle est plus âgée que je ne pensais. Donc, il s'est rien passé avec elle. Elle est amoureuse.
Oli m'aime bien. Mais
vous êtes pas allé Oli avec Oli.
Non. Voilà. Ah. Là, je vais vous appeler Laurent Ruquier si vous faites des jeux de mots.
Je me suis dit, j'ai un humoriste, je vais en profiter pour lui montrer mes talents.
Eh ben, je prends.
Donc, il s'est rien passé avec Oli.
Mais c'est marrant parce que vous parliez de religion tout à l'heure. Oli, oui, la sainte.
Ah ouais.
Mais il y a aussi ce truc de se retrouver seul dans un pays étranger. Sur qui vous pouvez compter? Sur vous. Et quand vous êtes seul, c'est là que vous vous rapprochez, mine de rien, de Dieu quand vous êtes croyant ou pas. C'est-à-dire que quand vous êtes non-croyant, vous vous rattachez aussi à quelque chose. Et se retrouver seul, moi, j'ai tellement grandi en un an de solitude comme ça. Et puis, il faut resocialiser. Il faut se refaire un
microcosme. Il faut se bouger le cul, partir de chez soi.
Ah, c'est sûr, ça, c'est la moindre des choses. C'est le béaba.
Amazing! C'est le livre d'où j'ai tiré l'histoire d'aujourd'hui, signé Sami Amezian, alias le comte de Boudère Bala. Vous le trouverez sur...
Balai aussi.
Vous le trouverez sur Amazon. Et il a été édité par votre société AS Prod. Merci beaucoup.
C'est moi. Merci beaucoup, Christophe.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.